Les apprentis du bien nourri. Bonjour à tous, c'est Jérôme Pernaud au Moulin du Bien Nourri, lieu désormais mythique, on peut le dire, où on échange, on réfléchit, on travaille sur la musique, sur l'interprète, sur la manière dont les œuvres musicales traversent le musicien au moment où il joue. La manière dont il faut travailler, dont il faut pétrir la pâte des apprentis, bien sûr. La manière dont il faut moudre le grain à moudre. Et pour ça, on a besoin de conseils, évidemment. Le conseil des gens qui savent. Le conseil des gens qui sont déjà passés par ces chemins, qui peuvent nous montrer la direction. Même si le chemin, évidemment, on le fait de toute façon soi-même, on a besoin d'être mis sur la voie, et quand on vient de faire un petit bout de chemin, c'est à notre tour de mettre sur la voie, de montrer les directions possibles. Et c'est certainement ce que Rilke a pensé quand il a donné ses conseils à un jeune poète, et c'est certainement ce qu'a pensé Schumann aussi quand il a écrit ses conseils aux jeunes musiciens. Alors aujourd'hui, au cours collectif de ce stage de janvier à Châtellerault, j'ai décidé que ce n'était pas Jérôme Pernaud, le prof, mais Robert Schumann, tout simplement. C'est maintenant et jusqu'à 13h40 sur France Musique, dans Les Apprentis du Bien Nourri. Nous vous invitons à suivre les bons conseils de Robert.
L'éducation de l'oreille est ce qu'il y a de plus important. Tâchez de bonne heure de discerner chaque ton et chaque tonalité. Examinez quels sons produisent la cloche, le ver, le coucou, etc.
Et justement, Minouche nous a offert des cloches, donc ça tombe très bien. Alors, c'est parti. Tu nous donnes un la quand même, Karine. Voilà. Alors, on va travailler notre oreille, c'est ça qu'il conseille, hein. L'éducation de l'oreille est ce qu'il y a de plus important. Moi, ce que je vois de bien déjà dans cette phrase, c'est que l'oreille, ça veut dire que l'oreille s'éduque. Hein, l'oreille, elle ne sait pas toute seule reconnaître les sons. C'est en travaillant qu'elle va s'éduquer et qu'elle va apprendre à reconnaître les sons. Alors, allez, Pablo, tu viens tirer une cloche, là. Au hasard. C'est quoi comme note, Clara ?
Sol.
Oui, c'est un sol. Une autre ? Oh, bravo!
Mi?
Non.
Si.
Oui. Ah, je crois que tu me dis si, si, c'est un mi. Non. Mais c'est bien un si. Alors, c'est un si. Donc, de bonne heure, c'est-à-dire à votre âge, tâchez de discerner chaque ton, chaque tonalité. Ah! Vous y arrivez à ça ou pas? Chaque ton, chaque tonalité? Quand vous entendez un morceau, est-ce que vous pouvez vous dire quel ton c'est? Pablo, est-ce que tu y arrives ou pas? Je sais pas. Alors, on va jouer un morceau. Donc, Gabi, par exemple, tu commences. Alors, Clara, on est en quel ton? C'est pas moi, c'est Schumann qui te le demande. Tu sais pas?
Non, j'ai pas fait attention.
Pia, on est en quel ton? Tu sais pas?
Non.
Ah c'est pas grave, hein. On a le droit de pas savoir, hein. C'est pas du tout une honte.
Si bémol majeur.
Si bémol majeur, oui, c'est ça. Très bien, alors tu continues. Et dès qu'il y a une modulation, criez. Sol mineur, là, alors, réagissez. Alors, enfin, ça change. Stop, on est en quoi, là? Pia, tu sais? On passe en? On est quoi, là?
En fa majeur.
En fa majeur, merci Julien. Alors, continue. T'avais, Gabi, toi, t'avais reconnu qu'on était en fa majeur, là ? Mais oui, oui, oui. Majeur, et du coup, c'est le ton de quoi par rapport à la si bémol ?
Dominante.
Oui, de la dominante, très bien. Et donc, c'est le deuxième thème qui est sur le ton de la dominante. C'est tout à fait normal dans une sonate classique. Hein. Bien. Alors, vous n'êtes pas très fort pour reconnaître les tonalités au fur et à mesure que la musique défile, j'ai l'impression. Bah oui, c'est ce qui est le plus difficile. En tout cas, c'est typique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on n'y a pas été éduqué. Et pourtant, la modulation, c'est bien le propre du génie de notre musique. C'est bien ce qui la différencie de la musique populaire, celle qu'on chantonne tous sans réfléchir. Quand on chantonne comme ça, on module pas. Et c'est pour ça, certainement, que Schumann insiste là-dessus. Ah, celui-là, il est pour Gabi.
Jouer en mesure. Le jeu de beaucoup de virtuoses ressemble à la démarche d'un homme ivre. Ne prenez pas de tels modèles.
Il faut développer l'oreille, reconnaître les tons et jouer en mesure. D'accord ? Est-ce que tu peux nous faire la démarche d'un homme ivre ? Parce que tu te fais très bien, je me souviens. Vas-y, fais-le nous. Voilà, c'est pas très régulier en effet, t'as vu? Clara, viens nous jouer quelque chose. Schumann, quand il dit il faut pas jouer comme marcherait un homme ivre, ça veut dire qu'il faut que le tempo ce soit comme des pas quand on marche dans la rue. Mais vous avez remarqué, même quand on n'est pas ivre, ce qui j'espère vous arrive la plupart du temps, vous marchez pas pour autant toujours au même tempo. Il y a des moments où on est plus pressé que d'autres, il y a des moments où on flâne un peu, on regarde le paysage, puis il y a des moments où on accélère petit à petit. Il y a des changements de tempo même dans une même promenade. Le tout, et je pense que c'est ça qu'il veut dire Schumann quand il dit qu'il ne faut pas marcher comme un homme ivre, c'est qu'il faut trouver la régularité du pas, quel que soit le tempo, et même si le tempo va changer dans le morceau, et même si on va faire un petit ralenti, il faut que ce soit toujours dans une certaine régularité.
Ouais, 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 ouais.
On l'a vu il y a quelques mois ici au Moulin, c'est l'importance du rythme mécanique, bien sûr. Allez, on passe à un autre conseil de Schumann, c'est Julien qui va nous le lire.
Apprenez de bonne heure les lois fondamentales de l'harmonie.
Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'harmonie ? Vous en faites de l'harmonie ou pas, Clara ?
Non.
Pia ?
Non.
Non ? Tu sais ce que c'est l'harmonie, Pia?
Non.
Non. À ton avis, t'as pas d'idée du tout?
Non.
Non. Ah, c'est intéressant de savoir ça, que nos petits bambins ne savent pas ce que ça veut dire l'harmonie. Alors, Chloé?
Non.
Tu sais pas ce que ça veut dire?
Non.
On t'a jamais parlé d'harmonie?
Si, mais comme ça. Voilà.
C'est-à-dire?
On m'a pas expliqué ce que c'était.
Ah ouais. Mais tu penses que c'est quoi? Au conservatoire, on t'en a parlé d'harmonie, par exemple?
Le nom de la matière, seulement harmonie au clavier.
Ah, donc c'est une matière, oui. Harmonie au clavier. Mais tu vois pas trop ce que c'est?
Non.
D'accord. Pablo. Tu sais ce que c'est, l'harmonie?
Non.
Gabi, c'est quoi, l'harmonie?
C'est quand il y a des accords avec le violoncelle et le piano, n'importe quel instrument, et qu'il y a des notes sensibles, c'est un accord parfait.
Oui, ça fait partie de l'harmonie. Comment on pourrait réunir tout ce que tu dis là en une seule chose? C'est quoi l'harmonie? Il y a Mozart qui a une jolie définition de ça. Il dit « c'est l'art de mettre ensemble les notes qui s'aiment ». C'est joli comme définition. Donc les notes qui sont consonantes, c'est-à-dire qui sonnent bien ensemble, qui sont en phase, si on les met ensemble, ça va faire des accords. Hein, un accord. Fais-nous un accord de quinte. Voilà, c'est un accord consonant. Ensuite, bien sûr, au fil de la recherche musicale, on va rajouter des notes qui vont être dissonantes par rapport à cet accord-là. Voilà. Et maintenant, du Do pour aller au La, on va passer par le Si bémol. Voilà. Ce qui donne cette note de passage-là, ce Si bémol, ça va donner un autre accord qui est celui-là. D'accord ? On a d'abord, ensuite, et puis ça. D'accord ? Donc là, avec une note de passage, on vient de créer un autre accord qui s'appelle une... Vous ne le reconnaissez pas, cet accord, hein ? Une septième de dominante, bien sûr. Et cette note de passage, évidemment, qu'elle est un peu dissonante. Mais elle crée quand même un accord. Et cet accord, ça fait partie de l'harmonie. C'est-à-dire, c'est une note qui va bien avec l'accord qui est en dessous. Elle est en harmonie avec l'accord. Donc, l'harmonie, ce que Schumann vous conseille d'apprendre dès le plus jeune âge et que vous ne faites pas, parce que pour le moment, dans vos conservatoires, on ne vous le propose pas. On vous fait faire du solfège. Voilà. Formation musicale. Mais... en solfège, on n'apprend pas l'harmonie. C'est-à-dire qu'on ne vous apprend pas à mettre les notes qui s'aiment ensemble. À quoi ça sert d'apprendre à mettre les notes qui s'aiment ensemble, Gabi, ouais, d'apprendre l'harmonie? Oui, à écrire, bien sûr, à écrire. Comme en français, on vous apprend à écrire, on vous apprend les lettres, comment les mettre ensemble, puis ça forme des mots, puis après, on peut écrire une histoire. En musique, c'est pareil. Bien. Alors, donc l'harmonie... Qu'est-ce qu'il dit? Apprenez de bonne heure. Ça ne veut pas dire le matin très tôt. Ça veut dire quand vous êtes très jeune. Et puis, alors, pour ceux qui n'ont pas appris de bonne heure l'harmonie, il faut considérer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, bien sûr. Toi, Julien, par exemple, tu t'y es mis quand à l'harmonie?
Là, ça va faire 3 ans.
Et t'as quel âge?
25, bientôt 26.
Et vous appelez ça de bonne heure, vous?
Ah,
oui. Oui, c'est de bonne heure. Par rapport à moi, c'est vraiment de bonne heure. Laurence, est-ce que tu as commencé l'harmonie?
C'est ma deuxième année, j'ai commencé à 17 ans.
D'accord. Juliette, tu as commencé l'harmonie quand?
Moi, j'ai commencé à 13 ans.
Ah oui. Tu es la plus jeune pour le moment.
Oui.
Et tu fais aussi du clavecin et tu fais de la basse continue depuis longtemps quand même.
Depuis basse continue depuis la sixième.
Donc tu avais 11 ans, quoi.
11 ans, oui.
Donc là, tu as commencé, en fait, à faire de l'harmonie, puisque tu faisais de la basse continue.
Oui.
Un peu. Hein. Gabi, est-ce que tu as commencé l'harmonie?
Non, j'espère commencer l'année prochaine.
Et pourquoi l'année prochaine? On est au mois de janvier. C'est un comble. Alors, les autres, il va falloir que vous suiviez les conseils de Schumann. Hein. Il faut apprendre les lois fondamentales de l'harmonie. Les lois de l'harmonie sont fondamentales. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, le conseil d'après, c'est n'ayez pas peur des mots, théorie, harmonie, contrepoint, etc. Ils vous souriront si vous leur en faites autant. Alors imaginez tout simplement que vous êtes prof de français et que des élèves de CM2 ne sachent pas vous dire ce qu'est la grammaire. Ça vous ferait à peu près le même effet que ce que je viens d'entendre au sujet de l'harmonie. Et puisque Schumann nous conseille d'apprendre la musique de bonne heure, et ben j'en profite pour vous présenter une toute nouvelle apprentie au Moulin du Bien-Nourri. Elle s'appelle Pia, elle a 8 ans, et ça fait quelques mois qu'elle apprend le violoncelle avec Madame Reddy à Tours, au conservatoire. Et vous allez l'entendre au cours de la séquence suivante. Ce sera après la lecture d'un nouveau conseil du bon vieux Robert.
Tâchez de jouer bien et expressivement des morceaux faciles. Cela vaut mieux que d'exécuter médiocrement des compositions difficiles.
Qu'est-ce que ça veut dire, Clara ?
Qu'il ne faut pas jouer des morceaux difficiles mal et qu'il vaut mieux jouer des morceaux faciles bien.
Oui, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire bien ? Il dit bien et
expressivement.
Expressivement, oui, oui. Donc, c'est pas la peine de travailler des morceaux difficiles. C'est jamais la peine de travailler des morceaux difficiles et puis d'être. Non, enfin, je veux dire, des morceaux trop difficiles, je veux dire. Il faut pas jouer des morceaux trop difficiles dans lesquels, justement, c'est tellement difficile qu'on ne peut pas les jouer avec expression. On ne peut pas les jouer bien. Et, bon, Pia, par exemple, tu vas nous jouer ton morceau. Et vous allez voir comme elle le joue expressivement. C'est magnifique, c'est magnifique. Et tu vois, d'abord, en plus, c'est pas vrai que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Mais c'est de ton niveau. Et alors, tu le joues très bien parce que, justement, tu le maîtrises et que tu le joues avec beaucoup d'expression. C'est très beau. Et tu vois, ça, c'est parce que tu as une très bonne prof. Eh oui, parce que les très bons profs, ils donnent les bons morceaux à travailler. Pas un truc dans lequel tu vas devoir passer trop de temps à arriver à jouer juste les notes, mais au moins tu les joues bien. Bon, ben on peut passer à un autre conseil alors. Ah, c'est pour Minouche, tu as. Ayez toujours soin que votre piano soit parfaitement accordé.
Puissiez non seulement jouer vos morceaux, mais que vous soyez capable de les solfier sans piano, que votre imagination soit cultivée au point de retenir aussi bien l'harmonie donnée à une mélodie que la mélodie elle-même.
Il faut que vous puissiez non seulement jouer vos morceaux, bien sûr, faut quand même le jouer, bien sûr, mais que vous soyez capable de les solfier sans piano. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire de les...
Les chanter.
Les chanter, ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que les morceaux, quand on travaille, il faut chanter. Il faut arriver à les chanter. Ça, c'est très important. Sans le piano. Que votre imagination soit cultivée au point de retenir aussi bien l'harmonie donnée à une mélodie que la mélodie elle-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que votre imagination soit cultivée au point de retenir l'harmonie. Julien ?
C'est-à-dire qu'il faut avoir vu beaucoup de musique
cultiver beaucoup l'esprit, en écrire beaucoup pour retenir à l'écoute des harmonies neuves.
Et donc, il ne s'agit pas de retenir que la mélodie, mais il s'agit de retenir l'harmonie qui va avec. Qui est-ce qui va nous jouer quelque chose, là ? Juliette. Merci, c'est joli cette petite phrase. Pia, tu veux le chanter ?
Non, mais en fait, j'arrive pas très bien à le mémoriser.
Oui, alors chante juste après moi. Ça, tu peux. Voilà. Et tous ensemble. Ok, encore. Juliette, tu nous la joues. Écoutez bien et mémorisez. Et tu sais, pour mémoriser, ce que tu peux faire, c'est déjà, tu entends les notes pendant qu'elle joue. La, fa, la, ré, fa, la, parce que tu as une très bonne oreille. Donc, tu prends comme si c'était une dictée. D'accord ? Et surtout, tu peux aussi visualiser si ça monte ou si ça descend. Ça va t'aider aussi, peut-être, à mémoriser. Maintenant, tu vas nous le jouer avec Karine. Okay. On est en quel ton ?
Ré majeur.
Très bien. On est en ré majeur et qu'est-ce qu'elle fait la basse ensuite ? Alors essaye d'entendre ce qui se passe du point de vue de l'harmonie, parce que c'est ça que nous demande Schumann. Je vous répète le conseil, il faut que vous puissiez non seulement jouer les morceaux, mais que vous soyez capable de solfier sans piano, que votre imagination soit cultivée au point de retenir aussi bien l'harmonie donnée à une mélodie que la mélodie elle-même. Alors d'accord, on a retenu la mélodie là tout à l'heure puisqu'on l'a chantée. On est en train de tester et de voir si notre oreille est assez cultivée pour retenir l'harmonie. On y va. C'est bon, Julien, t'as retenu ? Ok. Donc moi, je chante le haut et toi, tu chantes les accords. D'accord ?
Oui.
On essaie ? La fa, ré, fa, la, sa, fa, mi, si, ré, mi, la, ré, mi, la, do. Ouais, bravo. Avec le si bémol, si, mi, ré, do. Et ben oui, il a l'oreille cultivée, Julien. Thank you. oui, oui. Si vous voulez arriver à un moment particulier. L'importance de la mémorisation. On n'en parle jamais assez. Et vous avez remarqué, Schumann insiste sur l'importance de ne pas retenir que la mélodie, mais toute l'harmonie qui lui fait corps. Et oui, on ne peut pas retenir si on ne comprend pas. Il faut comprendre le langage pour le mémoriser. Ça me fait penser à Mendelssohn, qui, quand il avait 14 ans, il était invité régulièrement par Goethe pour lui raconter les derniers concerts de Beethoven auxquels il avait assisté. C'est Mendelssohn qui lui racontait. Il se mettait au piano et puis il lui jouait ce qu'il avait retenu des concerts, des symphonies de Beethoven qu'il venait d'entendre. Et évidemment, ça implique une compréhension globale du langage. Alors, n'allez pas croire que c'est le privilège de personnalités du passé. Pas du tout, c'est évidemment encore possible aujourd'hui. Des musiciens comme Jacques Saint-Yves, comme Jérôme Ducrot, par exemple, qui a écrit le générique de notre émission, ou comme Stéphane Delplace, Zigel et autres, peuvent encore raconter au piano ce qu'ils viennent d'entendre en concert, comme on raconterait un film qu'on vient de voir. Voilà, c'est ni de la bravoure, ni de la bravitude, c'est de l'éducation.
Ne recherchez pas cette brillante exécution qu'on appelle la bravoure. Tâchez de produire de l'impression en rendant l'idée que le compositeur avait en vue d'exprimer. Vouloir davantage est ridicule.
C'est pas mal, hein ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Il veut dire qu'il faut pas se mettre l'interprète devant le compositeur, en fait, qu'on sert l'œuvre, quoi, qu'on n'a pas... On n'a pas à se mettre devant l'œuvre.
Ouais, exactement.
On est au service de l'œuvre, quoi, avec le compositeur.
Absolument. Tu veux nous le rejouer, ton Davidoff, là, en essayant ça, de mettre ça vraiment. Ouais. C'est vraiment ça, exactement. C'est être humble face à l'œuvre d'art. Et nous, on n'est que les interprètes, c'est-à-dire qu'on n'est que les traducteurs, interprètes comme un traducteur, hein. Du coup, on n'apporte pas son grain de sel, c'est-à-dire que l'œuvre nous traverse, bien sûr, ça traverse donc notre sensibilité, donc avec notre culture, notre savoir, tout notre être, tout ça est traversé par l'œuvre, et donc forcément, ça va donner quelque chose qui sera différent si c'est toi qui le joues, ou si c'est Laurence qui le joue, ou si c'est Gabi, etc., ou si c'est Julien. Mais c'est pas... pour autant que toi, tu vas chercher à ajouter quelque chose de personnel. C'est surtout pas ça. D'ailleurs, le conseil qui suit, il dit « Considérez comme quelque chose d'odieux de changer quoi que ce soit aux œuvres des maîtres, d'y rien au maître ou d'y ajouter du nouveau. Ce serait la plus grande injure que vous puissiez faire à l'art. »
J'ai aucune occasion de faire de la musique avec d'autres personnes, en duo, trio, etc. Ces exercices rendront votre jeu coulant en lui, donnant du mouvement, de la couleur. Accompagnez souvent les chanteurs.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il qu'il faut faire de la musique...
De chambre.
Voilà, de la musique de chambre, bah oui. Karine, est-ce que ça t'est déjà arrivé de négliger de faire de la musique avec d'autres?
Non, pas du tout, non. C'est la principale raison pour laquelle on fait de la musique, enfin, c'est de partager la musique avec d'autres.
Et tu fais ça depuis toujours, toi?
Depuis longtemps.
On dirait que tu fais ça depuis que t'es née. Alors là, c'est Pablo et Laurence qui nous font un petit duo de Bartok. Alors, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile quand on joue avec quelqu'un comme Laurence?
C'est pas Laurence, mais c'est le rythme.
Si je jouais en rythme, c'est con, je pourrais peut-être faire quelque chose. Oui, c'est le rythme, bien sûr. Si on joue pas en rythme, on peut pas jouer avec les autres. Et alors, est-ce que tu as joué avec d'autres amis, à d'autres occasions?
Une fois, dans une audition, j'ai joué avec en trio.
Et c'était bien? C'était sympa ou c'était juste... c'était obligé, quoi?
C'était dur parce que c'était... Je faisais pas la base.
Alors là, d'ailleurs, il y a Schumann qui dit « Si tous les artistes voulaient être premier violon, on pourrait pas organiser un orchestre. » Allez, un petit dernier pour la route.
Ne refusez jamais de chanter en chœur, et particulièrement les parties intermédiaires. Cette pratique contribuera à vous rendre bon musicien.
Ah, ça c'est bien, alors chanter. Est-ce que vous avez déjà chanté dans une chorale?
Oui.
C'était quoi? Vous avez déjà chanté des chorales de Bach?
Non.
Ça vous est jamais arrivé de dire, allez, on est quatre, on lit un chorale? C'est des heures de plaisir, de bonheur pur, ça, hein, de lire des chorales de Bach. Eh oui, on a dégoté chez Minouche une vieille partition des chorales de Bach. Et désormais, c'est promis, on en fera une tradition. On chantera tous les matins notre petit choral, tous agglutinés là autour d'un pupitre, la petite Pia debout sur une chaise. Et même les techniciens de France Musique s'y sont mis. Hein, la dernière fois, c'est Raffi et Jean-Pierre qui ont déchiffré avec nous. Alors, ben voilà, en même temps que nos oreilles se perfectionnent, on se remplit tout simplement de joie et d'enthousiasme. On a cette sensation presque inconsciente de faire quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, comme dit notre bon vieux Robert, rien de grand ne s'accomplit sans enthousiasme. Et le tout dernier conseil de Schumann, tiens, c'est Gabi qui va nous le lire.
On n'a jamais fini d'apprendre.
Jamais fini d'apprendre. C'est comme ça donc que se finissent les conseils aux jeunes musiciens de Robert Schumann. C'est comme ça aussi que se termine notre émission réalisée par Jean-Pierre Collard avec à la technique Bernard Legac, Yann Frécy et Michel Mestre. « c'est Jean-Claude Pentier qui nous a accompagnés avec les scènes d'enfants de Schumann tout au long de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des emails à l'adresse lesapprentis@radiofrance.com. Vous pouvez réécouter cette émission pendant toute la semaine jusqu'à la prochaine en téléchargeant sur francemusique.com. Et puis vous pouvez aller faire un petit tour sur le blog du Moulin du Bien Nourri, vous trouverez le lien sur le site de France Musique. Merci à Minouche, merci à Hervé Sornic, aux apprentis aussi de prêter si gentiment leur concours à cette émission, puis de se prêter au jeu des micros. Merci évidemment à l'accompagnatrice des apprentis, la fidèle Karine Cello. Il est maintenant l'heure de retrouver Dominique Boutel. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, 13h sur France Musique. D'ici là, amusez-vous bien.